c'est certain que ça va être contesté. Après, par qui ça va l'être et quels vont être les impacts de cette contestation, c'est ici qu'on a beaucoup moins de certitude. C'est-à-dire qu'il est certain, selon moi, que les membres supporters de Shelley Glover vont continuer à contester l'issue du vote. Il y en a plusieurs qui ont déjà monté une page Facebook, vous êtes sans doute déjà au courant, pour recueillir les témoignages des personnes qui n'ont pas reçu à temps ou pas reçu du tout leur trousse électorale par la vote et pour documenter sur les démarches que ces membres-là ont fait pour tenter d'avoir leur bulletin de vote pour pouvoir prendre part au scrutin. Après, Shelley Glover elle-même, la journée samedi, a laissé entendre qu'elle contesterait peut-être l'issue de la légitimité de ce processus-là. On attendait peut-être une sortie de sa part hier. Et pour faire écho à la chanson qu'il jouait tout juste avant l'entrevue, ben, je crois qu'hier, elle s'est dit « Pourquoi faire aujourd'hui ce que je peux faire demain? » Lundi, ça sera peut-être, aura peut-être plus d'impact qu'un dimanche après-midi. Donc, ça va être quelque chose à surveiller de très près aujourd'hui, selon moi.
Oui, d'accord. Alors, parce que c'est un écart qui est vraiment minuscule comparé à ce qu'on pouvait prévoir, parce que tout l'establishment et le caucus là des partis du Parti progressiste conservateur étaient rangés derrière Heather Stephenson.
Ah oui. En fait, dès le départ, faut dire de manière quasi instantanée, l'establishment du parti et a fortiori les membres élus, les députés élus, donc le caucus du Parti progressiste conservateur, se sont rangés en masse derrière Heather Stephenson avant même que la course à la chefferie soit officiellement déclenchée. Et ici, ce qu'il me semble qu'on a tenté de faire, c'est d'annoncer un couronnement, c'est-à-dire de dissuader les candidatures, une pluralité de candidatures de faire leur entrée dans la course au leadership. C'est la pratique avec laquelle on a sélectionné nos leaders au Parti progressiste conservateur pour les 40 dernières années. Okay. Alors, la dernière fois, ça remonte à Gary Filmon en 83 pour penser à une course au leadership qui a mené à une véritable course à des débats d'idées. Mm-hmm. Et donc ici, c'est également cette dynamique qui aurait poussé Shelley Glover à dire non, mais c'est important qu'il y ait au moins une voie alternative qui soit proposée aux membres. Et ultimement, ben, c'est quelque chose qui est important pour un parti parce qu'une course, ça permet d'aller chercher des nouveaux membres. Et ici, on le voit, c'est assez spectaculaire. Ce qui s'est passé, on parle d'environ 5000 membres au plus creux sous Brian Pallister. Et maintenant, on en aurait 25-26 000. Oui. Donc, on voit que la course au leadership a permis de redynamiser la base partisane du parti. Maintenant, celle-ci étant divisée exactement pratiquement 50-50%, ben, ça n'annonce pas de beaux jours pour l'unité du parti. Mm-hmm. Parce que oui, Heather Stephenson va pouvoir être forte assez du soutien de ses collègues élus à l'Assemblée législative. Mais en vue des prochaines élections, en ce moment, ils ont vraiment devant eux beaucoup de défis, une course à obstacles avant de se rendre aux élections provinciales de 2023. Je parlais avec ma mère hier au Québec. Et elle me disait, bon, mais qu'est-ce qu'elle veut faire? Ben, c'est très difficile à dire, finalement, parce que on a suivi la campagne. C'est certain qu'il faut reconnaître, d'une part, que cette course à la chefferie s'est déroulée dans l'ombre pour l'essentiel de la campagne électorale fédérale. Mais n'empêche, ça n'a pas donné lieu à des débats d'idées. Ce qui a distingué, finalement, les deux candidatures, c'était leur approche par rapport aux mesures sanitaires. Donc, on avait une Heather Stephenson qui, elle, souhaitait maintenir les mesures sanitaires en place, et Shelley Glover, qui, dans ses efforts, notamment pour courtiser un certain électorat, sa base partisane beaucoup plus anti-mesures sanitaires, anti-vaccination obligatoire, et beaucoup de ses membres qui sont arrivés avec la vague de la candidature annoncée de Ken Lee, qui n'a pas été retenue par le parti finalement, eh bien, ici, celle-ci s'est présentée un peu comme cette candidate de l'anti-establishment. Ce qui faisait peur, très certainement, à l'exécutif du parti, parce que là, il sentait que si c'était Shelley Glover qui le remportait, il allait un peu perdre le contrôle sur la direction souhaitée du parti.
Oui.
Mais dans tous les cas, au niveau des politiques publiques, qu'est-ce qu'on veut faire en culture, en infrastructure? On a eu très peu de débats d'idées ici, très peu de propositions concrètes. Et je pense que quelque chose que plusieurs Manitobains aiment bien voir en Heather Stephenson, c'est d'une leader qui marche en collaboration, en communication, écoute, compassion. Mais en même temps, c'est des belles qualités, mais ça ne remplace pas pour autant un projet concret à proposer aux Manitobains. Et dans la situation présente où celle-ci, Heather Stephenson, faut pas l'oublier, était ministre de la Santé pendant le fort de la pandémie, ça va être très facile pour l'opposition du NPD de Wapkinou, il me semble, de miser là-dessus pour souligner à quel point, finalement, il n'y a pas eu de changement de bas, il n'y a pas eu de coup de barre qui va avoir été donné ici. Et donc, je pense que ça va être très difficile pour les mois à venir pour le Parti progressiste conservateur.
Et Wapkinou, qui ne s'est pas gêné, d'ailleurs, depuis hier déjà, de frapper sur ce clou-là à répétition. OK, maintenant, bon, il y a tout cet imbroglio concernant est-ce qu'elle va être la nouvelle première ministre. On pense que oui, mais ça pourrait être contesté. Jusqu'à quel point ça entache pas tout le processus, tout le parti même progressiste conservateur que cette histoire de possible contestation?
Oui, c'est certain que ça fait mal à l'image du parti. C'est jamais bon quand on se fait accuser de ne pas être en mesure, même à l'interne, d'organiser ses propres consultations. Encore une fois, ça donne de l'eau au moulin à Wapkinou pour dire « Bon, mais comment voulez-vous faire confiance à un parti qui n'est pas capable d'organiser une course au leadership, un vote démocratique pour 26 000 membres? Puis après ça, vous voulez leur faire confiance pour gouverner une province d'1,4 million d'habitants? Ça fait pas de sens. Je caricature un peu ici. » Mais ça va être une ligne éditoriale qui va être facile à mettre de l'avant chez l'opposition. Maintenant, est-ce qu'on va effectivement continuer de parler de cet enjeu-là pour des mois et des mois? Ça va vraiment dépendre des cartes que Shelley Glover va décider de mettre sur la table.
D'accord.
Est-ce qu'elle va finalement décider d'accepter la défaite, de la concéder? Est-ce qu'elle va briguer le siège laissé vacant par Brian Pallister dans Fort White?
Oui.
Si elle fait ça, elle pourrait d'une part accepter de prendre un poste de numéro 2 dans le gouvernement de Heather Stephenson qui viendrait finalement recoller les morceaux. Par contre, c'est pas du tout l'image qu'on a en ce moment où Shelley Glover a dit non, mais moi, la seule position qui m'intéresse dans le gouvernement manitobain, c'est le siège du premier ministre, de la première ministre. Et donc, on s'annonce plutôt un renouveau de tension. Ça va être... C'est difficile à projeter, mais
oui,
dans tous les
absolument.
Cas, je voulais simplement souligner, il faut quand même tenir compte que le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et d'autres leaders au pays ont déjà félicité Heather Stephenson pour sa victoire. Et donc, c'est très difficile d'imaginer une situation dans laquelle le Parti progressiste conservateur accepterait de faire marche arrière, puisque ça viendrait vraiment ici brouiller les cartes de la communication politique. Qui est aux commandes, est-ce que c'est légitime et tout ça. Donc, il me semble que le parti va sans doute demeurer assez fidèle à sa ligne éditoriale initiale, c'est-à-dire, on a un scrutin, il est imparfait, mais on en accepte les résultats.